Amen. Vous avez donc chanté avec moi, te ressembler Jésus. C'est votre prière? Si nous voulons ressembler de plus en plus au Seigneur, il est certain que nous devons être fortifiés. J'aimerais parler ce soir sur ce sujet. Paul, il est parlé de Paul, il fortifiait l'esprit des disciples. Donc, chrétien, il doit être fortifié. Comment chanter ce cantique, ce chœur, te ressembler Jésus, si nous ne prenons pas la décision d'être fort? Fort dans le Seigneur. Regardez dans Actes 18, 23, nous voyons un des aspects du ministère de l'apôtre Paul. Actes 18, verset 23. C'est important de comprendre ces choses. On n'est pas là pour avoir une réunion de plus, on est là pour vivre quelque chose de plus. Actes 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant qui ? Tous les disciples. Voilà donc quel était le ministère de l'apôtre Paul. Lorsqu'on se retrouve ensemble dans une réunion, que l'on soit une petite poignée, que l'on soit nombreux, des jeunes, des vieux, n'importe, la volonté de Dieu, c'est que l'esprit des disciples soit fortifié. Regardez un peu plus loin, acte 15. C'est dit plusieurs fois d'ailleurs, mais c'est bien qu'on le réalise. Acte 15, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Donc, ce n'est pas que le ministère de Paul. Vous voyez, Jude, Silas, deux autres hommes de Dieu, eh bien, avaient le même devoir. Ils passaient dans des endroits et ils les fortifiaient par des discours, donc par des prédications. Comment vous appelez-vous la prédication, en fait? Vous allez à un sermon, vous écoutez un sermon, vous écoutez un discours, un enseignement, une exhortation, voyez? Là, il est dit par des discours. Donc, nous ne nous rendons pas compte que dans un moment comme celui-ci, nous pouvons prendre la décision d'être fortifiés. Vous aimez fortifier votre corps? Est-ce que vous le sentez quand vous êtes en hypoglycémie? Est-ce que vous le sentez? Le frigidaire le sait vite. Vite, vous vous approchez de lui. Combien on est capable, lorsque notre corps s'épuise, vite de prendre un peu de sucre, un morceau de pain, des sucres lents, pour fortifier son corps? On le fait pour le corps? Bon, ce soir, votre présence là est la preuve que vous le faites pour votre âme. Je regardais ce matin dans le dictionnaire le mot fortifier, conforter, ragaillardir, ça c'est un mot de chez nous, réconforter, soutenir, fortifier, etc. Donner de la solidité. Est-ce que vous voulez être solide? Ouais, c'est ça, c'est ça ce qu'on veut. Est-ce que je veux être solide pour Dieu? Vous savez, on parlait tout à l'heure avec les chrétiens, et il y a des gens qui disent « Ah, moi, si mon mari était converti, je serais solide, si j'avais davantage d'argent, si j'habitais à côté d'une église. » Écoutez, si vous voulez être solide pour Dieu, quelles que soient les circonstances, vous pouvez être solide pour le Seigneur. Regardez comment on est capable de fortifier un bâtiment. Vous avez vu, des fois on voit une brèche, oula, il faut fortifier le bâtiment. On met un échafaudage et on construit à côté pour fortifier. Il y a des gens qui sont soucieux dès qu'ils voient une brèche dans le mur. Vite, 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 il faut fortifier la maison. T'as raison, c'est intéressant. Mais ce soir, de la même manière que Paul, Silas, etc., se retrouvaient dans des églises et fortifiaient l'esprit des disciples, nous voulons être forts dans le Seigneur. C'est bien ça? Parce que demain, vous ne savez pas qui c'est que vous allez rencontrer demain. Peut-être vous pensez à vous, mais demain, est-ce que Dieu peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui a besoin de votre témoignage? Est-ce que ça peut arriver? Ah oui. Des fois, on pense à nous, Seigneur, fortifie-moi, mais vous ne savez pas. Demain, peut-être dans le métro, vous allez rencontrer quelqu'un qui pense au suicide. C'est sûr que si vous êtes complètement déprimé, tu vas te suicider. Ah ben, je viens avec toi. Non, je pense que c'est peut-être un peu mieux, de lui donner une parole d'encouragement. Oui ou non? Ah oui? Il ne faut pas penser qu'à soi, on est fortifié. Bien sûr que c'est une bénédiction d'être soi-même fortifié, mais il faut penser que ça correspond également à des choses que Dieu veut pour nous. Donc, il est écrit, ne le cherchez pas, Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. À partir du moment où vous êtes concentré sur la présence de Dieu, vous avez de fortes chances d'être fortifié. Fortifie-toi dans la grâce, dira Paul à Timothée, la grâce de Dieu. Vous y croyez toujours, la grâce de Dieu? Oui. Il faut croire dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est continuelle, jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, la grâce de Jésus-Christ est assis sur le trône de la grâce. À n'importe quel moment de la journée, de votre vie, vous pouvez dire, je peux obtenir la grâce de Dieu. Dans Actes 16, nous ne le cherchez pas, les églises se fortifiaient dans la foi. La foi, c'est sûr que si vous lisez sans croire, vous ne serez jamais fortifié. J'aime énormément ce texte parce qu'il m'a parlé beaucoup. Dans Romains au chapitre 4, il nous est parlé d'Abraham. Et il y a une clé dans ce verset. Il y a une clé. En tous les cas, pour moi, je peux vous dire que ça a été plus qu'une clé. Ça a été une véritable expérience. Un moment où j'étais fatigué, justement. Romains chapitre 4, il est parlé d'Abraham. Il a fait une expérience. Est-ce que vous éprouvez le besoin de faire une expérience avec Dieu? Peut-être vous venez d'en faire une, peut-être que ce n'est pas utile, mais est-ce que ça peut être l'occasion de dire, mais tiens, ce soir, pourquoi je ne ferais pas une expérience avec Dieu? Qui corresponde à sa volonté, pas une expérience pour faire une expérience. Mais peut-être que vous dites, mais moi je suis toujours affaibli, je suis toujours faible dans la foi. Regardez, Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez bien maintenant. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fut fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors ne dites pas ce soir, oh, ça y est, Monsieur Gou nous a donné un truc. J'ai trouvé un truc. Non, il n'y a pas de truc dans la Bible. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de truc. Il y a un comportement à imiter, un témoignage à comprendre. Abraham a été vieux, âgé, sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il avait une promesse. Et laissez-moi vous dire que nous aussi, on en a des promesses dans la Bible. Vous savez combien il y en a de promesses dans la Bible? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de promesses il y a dans la Bible? Bon, je ne les ai pas comptées, mais je l'ai lu plusieurs fois dans des commentaires. 32 500. Bon, si vous voulez apprendre, apprenez-les. Mais 32 500 promesses dans la Bible. Je pense que c'est vrai, ça a été fait par des théologiens, etc. C'est sérieux. Mais Abraham avait une promesse. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Consulter tous les gynécologues du pays? Ça ne servait à rien du tout. Il avait une promesse et il a décidé de ne pas douter. Il a été fortifié. Comment? Comment il a été fortifié? En donnant gloire à Dieu. Est-ce que vous donnez gloire à Dieu? Je vais être sévère dans ce que je vais dire. Ou est-ce que vous êtes tout en train de donner gloire au diable? Monsieur Gou. Mais vous savez, quand on ne fait que se plaindre, qui c'est qu'on glorifie? C'est pas l'ennemi qu'on glorifie. Ah oui. Et on ne peut pas faire ci, et on ne peut pas faire ça, et on n'y arrivera pas, et je ne comprends pas. Vous savez, ça ne glorifie pas Dieu. Hein. Dieu a dit que tout lui était possible. Abraham, il ne pouvait rien faire. Il y a des moments dans la vie où on ne peut rien faire. Est-ce que vous pouvez sauver quelqu'un? Non. Mais est-ce que vous pouvez glorifier Dieu? Mais pas avec la tête. Parce que c'est quand je vous disais, ce n'est pas un truc, il y a déjà, ah, ça y est, on a compris, on sait ce qu'il faut faire. Quand je vous dis, il y a une clé, c'est... Non, il n'y a pas de truc dans le royaume de Dieu, ça serait grave. Ça ne marche pas avec des trucs. C'est un état de cœur. Mais moi aussi, je veux glorifier Dieu. Je veux lui donner gloire. Il est le Tout-Puissant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est clair. Vous pouvez vous penser à vos enfants peut-être, mais mes enfants, ou ceci ou cela. Mais est-ce que vous commencez vos journées en donnant gloire à Dieu? Seigneur, je te rends gloire. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est vrai qu'on en occulte, avec notre temps de louange, on appelle ça nos cultes d'adoration. Mais vous croyez que ça fait de nous des adorateurs parce que pendant 25 minutes on chante le dimanche matin? C'est pas ça être un adorateur. Être un adorateur, d'abord Paul le dit, Dieu que je sers en esprit, dans mon esprit. Il est dans un état d'esprit. C'est dans la rue, c'est à la maison, c'est le jour, c'est la nuit, c'est dans l'épreuve, c'est dans la bénédiction. Oui, c'est une clé. Abraham, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a pas dit, bon, mais je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? David, il a tué, il a coupé la tête à un géant. Il dit, mais je vais faire pareil. Vous savez, parce qu'il y a des gens, ils veulent faire comme les autres. Ben David, il a raccourci Goliath, et bien je vais faire pareil. Ou alors il a pu dire, tiens, tel homme, il a fait ça, tel Noé, il a construit une arche. Ah ben, je vais construire une arche. Mais, tiens, je vais faire comme Noé. Dieu ne nous demande pas d'imiter les autres. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est le glorifier. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si vous le faites avec votre cœur, pas avec votre tête, parce que si vous répétez en groupe, Seigneur, je te glorifie, 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 ça ne sert à rien. Mais si dans votre cœur, vous dites, Seigneur, je peux te rendre gloire, tu tiens ma vie dans ta main. On a parlé d'Abraham dimanche, que lui, ses regards étaient sur Dieu. Et à plusieurs reprises, partout où il passait, il construisait un hôtel, il donnait un nom nouveau à Dieu. Quel témoignage! Quel témoignage de cet homme qui a vraiment vécu quelque chose avec Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Si vous êtes faible, c'est parce que souvent, vous ne donnez pas gloire à Dieu. On le relit? Vous avez vu? Il a refusé d'être faible. Il a refusé. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Voilà. Ça ne vous intéresse pas? Moi, quand je lis ça, je dis, oula, ça vaut la peine de... Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Mais je voudrais vous dire, quand vous lisez la Bible, il faut dire, tiens, il n'a pas faibli. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Sans faiblir dans la foi. Ah ben, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Si vous considérez les circonstances, vous ne vous en sortirez jamais. Les hommes de foi, est-ce que Noé a considéré les circonstances? Est-ce que, parce que j'ai parlé de Noé, est-ce que David a considéré les circonstances? Non. Vous pouvez voir tous les hommes de Dieu, ils ne considèrent jamais les circonstances. Je vous parlais l'autre jour de Groyer. Quand je suis arrivé à Groyer, c'était catastrophique. Vraiment. Les gens, ils louaient Dieu. Comme je vous l'ai dit, ils louaient Dieu. Bon, merci Seigneur pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour la croix. Et puis après, ouais, dans cette ville, il n'y a que des guérisseurs, on ne peut rien faire. Mais je dis, mais ce n'est pas comme ça que ça va. Ils considéraient les circonstances. Il ne faut pas considérer les circonstances. Il faut considérer la gloire de Dieu. Vous voyez, on continue. Il n'a pas considéré son corps. Puisque ni celui de Sarah, il ne douta pas, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Être fort, il y a des chrétiens qui sont faibles. Alors, un des meilleurs moyens d'être fort, on va le lire, ça c'était l'introduction, un des meilleurs moyens d'être fort, c'est de comprendre la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Dans Luc au chapitre 21, c'est le meilleur moyen. Vous voulez être fort dans le Seigneur? Est-ce que vraiment vous croyez que Dieu peut vous fortifier? C'est évident. Si vous l'expérimentez, vous le saurez, croyez-moi. Luc 21, 34. Ouais, 34. Jusqu'à 36. Prenez garde à vous-même. Vous faites attention aux autres ou à vous? Est-ce que est-ce que vous prenez garde à vous-même? C'est bien de prendre garde à soi-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Ça, c'est une prophétie. C'est des choses qui vont arriver sur la surface de toute la terre, comme un filet. Vous n'êtes peut-être pas chasseur. Je ne sais pas s'il y a des chasseurs, peut-être il y a des cueilleurs de champignons ou des chasseurs, je n'en sais rien. Mais il y a je ne sais pas si vous avez vu, dans certains endroits, je crois que dans les Landes, ils le font, ils chassent les oiseaux avec des filets. Ils cachent des filets dans les arbres, à l'entrée des bois. Et que lorsque les oiseaux se rabattent vers les forêts pour se cacher, ils sont pris. Mais quand ils voient le filet, c'est trop tard. Quand il le voit, c'est trop tard. Et le Seigneur dit qu'il va venir ce jour où les gens seront pris comme par un filet. Et si nous ne voulons pas être pris, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être fort. Et pour être fort, le Seigneur dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Vous voulez être fort pour le Seigneur? Vous voulez être fort pour vous-même aussi, parce que quand même c'est bien. Fort pour vos frères et sœurs. Est-ce que vous voulez être fort pour vos frères et sœurs? Il n'y a pas des gens avec qui, quand vous allez vers eux, vous savez qu'ils vont vous faire du bien. Est-ce que vous avez jamais vu ça dans l'église? Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, de toute façon c'est clair, vous savez qu'ils vont vous faire du bien. Oui ou non? Il y en a par contre, c'est l'inverse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas forts. Ils sont faibles. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas envie de... Des fois, on a peut-être envie même de les éviter. Allez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Mais je crois que quand on lit ces quelques versets que l'on vient de lire, on dit, mais moi, j'ai envie d'être fort pour le Seigneur, pour moi, pour mes frères et sœurs. Tout à l'heure, là, on va peut-être se congratuler dans la communion fraternelle, ce ne serait-ce qu'une minute. Est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un en une minute? Ben oui. Et demain, je ne sais pas, je le répète, vous ne savez pas qui c'est que vous allez croiser. Alors cette prophétie, c'est une prophétie. C'est des choses qui arriveront, c'est écrit, on l'a lu. Il y a une prière qui plaît à Dieu. Il y a une prière qui amène la bénédiction de Dieu. Il y a des prières qui ne servent à rien. Il y a des prières égoïstes, il y a des prières de païens, il y a des prières d'hypocrites, Jésus en parle. Mais il y a des prières qui font du bien. Il y a des prières que Dieu agrée. Il y a des prières qui sont pleines d'assurance. Il y a des prières qui sont pleines d'espérance, qui fait que on croit que nos enfants seront sauvés. Il y a une chrétienne qui est là depuis que je suis ici, qui me disait la semaine, samedi au téléphone, elle est restée au jeûne et prière, vous savez quand on a prié tous ensemble là, elle me disait, Monsieur Gault, c'est la première fois de ma vie que je crois tout à nouveau que Dieu peut sauver mes enfants. Parce que dans la réunion de prière, on s'est fait tellement de bien. J'ai prié avec des gens, ça m'a fait tellement de bien. Ce jour-là, à ce moment-là, j'ai cru de nouveau que Dieu pouvait sauver mes enfants. Mais c'est ça la prière. Elle avait honte parce qu'elle me disait quand même, je suis là, j'écoute vos prédications depuis que vous êtes ici et je n'avais pas d'espoir pour mes enfants. Mes frères et sœurs, la prière, elle doit être pleine d'espérance. La prière, elle fait que les chrétiens vont être remplis de force. D'ailleurs, dimanche, nous aurons 7 heures de jeûne et prière, et je vous encourage à y participer, pour vous, mais aussi pour les autres. N'oubliez pas que celui qui arrose, il sera arrosé. C'est des lois, ça. Oui, ça viendra comme un filet sur la surface de toute la terre. Il n'y a qu'une solution. Vous voulez être des vainqueurs? Vous voulez être debout quand Jésus viendra? Vous voulez être... Comment il dit le Seigneur? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Vous voulez être debout quand Jésus viendra? Même si vous êtes au lit, ce n'est pas physique. Hein, c'est une attitude spirituelle. Non, mais il y a des gens qui, vous savez, qui des fois qui interprètent mal. Oui, un jour terrible va venir sur la surface de toute la terre. Et la seule solution, c'est de prier et de bon cœur. De prier avec ferveur, de prier comme Dieu veut que l'on prie. On ne prie pas n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui prient. Là, on va arriver à la période de Noël. Il y a plein de gens qui prient. Ils ne savent pas si Dieu les entend. Ils ne savent pas ce que c'est la prière. Les païens. Est-ce que les païens prient? Ben oui. Est-ce que c'est écrit? Où c'est écrit dans la Bible? Comment? Non. Matthieu 6, quand Jésus dit, ne priez pas comme les païens. On peut le lire parce que quand même, c'est dans le cadre de l'enseignement sur la prière. Matthieu chapitre 6, il le dit, Matthieu chapitre 6, verset 5. C'est important, mes frères et sœurs, parce que on a des réunions de prière, mais il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils sont là, oui, je ne sais pas si Dieu m'entend. Écoutez-moi, quand vous priez, Dieu vous entend. Il ne faut pas que vous doutiez. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors comment vous le comprenez ce verset? Vous le comprenez comment? Bon, il faut tenir du contexte. En Israël, les gens priaient. Il y avait des juifs qui priaient dans le coin des rues. Ils priaient dans les rues. Dans les rues, devant les gens. Oh, cet homme, il prie. Alors, le gars, il allait acheter son beefsteak. Il revenait une heure après. Il voyait le gars en train encore de prier. Il pouvait dire, pour, cet homme. Oh, quel fervent bonhomme. Il est encore en train de prier. Pour être vu des hommes. Ils ont leur récompense. Ah, c'est sûr, la récompense des hommes. C'est bien de dire, oh, cet homme, qu'est-ce qu'il doit être pieux. Mais ce n'est pas ça, la prière. Qu'est-ce qu'il dit plus loin? Au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Voyez, comme les païens, dont les païens prient, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus ne veut pas que nous prions comme les hypocrites, Jésus ne veut pas que nous prions comme les païens, Jésus veut que nous prions de tout notre cœur, parce qu'on peut prier en fonction de sa culture, en fonction de son éducation. Moi je me rappelle quand j'étais petit, on récitait des prières. On nous disait, voilà, eh bien, il te faut aller à l'église. Et on nous disait, voilà, tu récites 6 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, c'est quand j'y repense. Eh bien, on le faisait. On le faisait. Ça faisait partie d'une espèce d'éducation que l'on avait reçue. Mais moi, je priais. C'était vraiment de la culture, quoi. C'était vraiment de la culture religieuse. Mais je ne croyais pas dans mes prières, ça c'est sûr. Et là, Jésus dit, surtout ne priez pas comme les hypocrites. Il faut être vrai avec Dieu. Vous savez, Dieu a institué la prière. C'est pour nous bénir. La prière, que ce soit un rafraîchissement ou que ce soit un combat, ou un grand combat, Parce que des fois, c'est un grand combat la prière. Des fois, c'est un moment de rafraîchissement. Quel que soit le moment de prière, il faut que ce soit un moment vrai. C'est pour ça que Jésus dit, ne priez pas comme cette catégorie de gens, ne priez pas comme les païens, c'est pas bon. Il parle aux églises, là. Jésus est en train de parler aux chrétiens. Une église qui prie, franchement, qu'est-ce qui peut se passer dans une église qui prie? Allez, aidez-moi à préparer la prédication. Qu'est-ce qui peut se passer dans une église qui prie? C'est bien. Qu'est-ce qui peut se passer? Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai plus de notes, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui peut se passer dans une église qui prie? Eh bien, les gens sont convaincus de péché. Les gens vont être guéris. Les âmes vont être touchées, etc., etc. On a chanté, il ouvre les prisons, etc. Les prisons des cœurs, il y a des gens qui sont enfermés. Une église qui prie, c'est une église qui avance. C'est une église où les perdus passent des ténèbres à la lumière. Moi, je me suis réjoui de voir ces jours-ci des gens qui m'ont dit, voilà, mais on veut mettre notre vie en règle avec Dieu. Encore tout à l'heure, on a eu plus de 2 personnes qui nous ont dit, voilà, nous, on veut mettre notre vie en règle avec Dieu. C'est ça l'église. C'est pas on change d'aquarium, on était dans telle église, on va dans une autre. Non, on voit la grâce de Dieu se manifester. Dans une église où on prie, il y a un travail utile qui se fait vraiment pour le Seigneur. Il y a des prières inutiles. Est-ce que la Bible parle de prières inutiles? Regardez avec moi dans Ésaïe, au chapitre 1er. Vous savez, moi, c'est le genre de verset qui m'a beaucoup arrêté. Fait arrêter à réfléchir. Amener à réfléchir, Ésaïe chapitre 1er. Vous savez, c'est des textes sévères. Dieu parfois peut être très sévère. Regardez ce verset. Moi, il m'a toujours frappé. Ésaïe 1, verset 15. C'est terrible, ça. Vous y êtes? Ésaïe. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, qu'est-ce que Dieu dit? Je n'écoute pas. C'est terrible, ça. Dieu a parlé du temps du prophète. Je n'écoute pas. Plus loin, regardez dans Zacharie, au chapitre 7. Zacharie, c'est presque avant le Nouveau Testament. Zacharie, chapitre 7, verset 13. Ça aussi, c'est difficile à lire. Hein? Mais Dieu ne le dit pas pour nous faire mal, Dieu le dit pour nous faire réfléchir. Zacharie, chapitre 7, verset 13. Presque avant l'évangile de Matthieu. Zacharie, Malachie, Matthieu. Zacharie, chapitre 7, verset 13. « Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. » Et des versets comme cela, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. C'est un principe. C'est un principe spirituel. La prière est liée à un état de cœur. Pour l'Église, je parle. Et les chrétiens doivent écouter comme il faut. D'ailleurs, vous connaissez ce proverbe 28 qui dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez? Alors, comme on est là ce soir, on dit, mais c'est vrai. Un des moyens d'être fort, vraiment d'être fort, c'est la prière. Alors, je veux être fortifié, mais je ne dois pas être un païen, enfin, me comporter comme un païen. Je ne dois pas être un hypocrite, je dois quand même faire attention à mon honnêteté. Alors tout ça, ça nous amène à dire, ben, c'est ça, je ne prie plus. Mais non, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des moments, il n'y a qu'une prière que Dieu exauce. C'est pardon. Est-ce que ce n'est pas utile parfois de dire au Seigneur, pardon? Ça, vous pouvez être sûr, cette prière, Dieu l'exauce. Que son nom soit béni. Vous pouvez dire amen. Parce que je ne sais pas où on serait si le pardon n'existait pas. Mais vous pouvez être certain qu'à certains moments, la seule prière que Dieu veut entendre, c'est « Seigneur, pardon ». Pardon. Du cœur. « Seigneur, pardon ». Cette prière-là, Dieu l'entend. Qu'est-ce que j'aime Ésaïe 55 qui dit « Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». Ça ne vous rassure pas? Bien sûr, ça doit pas nous autoriser à vivre dans le péché, mais ça doit nous faire comprendre qu'il y a tout le temps la possibilité de se retrouver en accord avec le Seigneur. Notre sœur tout à l'heure rappelait la prière du fils prodigue. Le fils prodigue, vous savez, il était là, au milieu de ses cochons, en train de souffrir de la faim, lui qui avait vécu dans l'abondance, et il a commencé à réfléchir, il est rentré en lui-même. C'est bien de rentrer en soi-même parfois. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre le ciel et contre... Il prépare sa prière. Il dit, je vais aller voir mon père, il faut que je lui dise tout ce que j'ai à lui dire. Alors je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé. Vous savez, il prépare sa prière, bon, mais c'est bien. Il prépare, et puis il va vers son père, et il ne va pas pouvoir tout dire. Son père dit, c'est pas la peine. Mais c'est ça la prière que Dieu aime parfois. J'ai péché contre le ciel. Ou contre un frère. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, je te demande pardon, je t'ai mal parlé. Ah non, moi demander pardon, mais vous plaisantez. Est-ce que c'est une grâce de demander pardon? Eh oui, si on a péché, il faut demander pardon. Je dis ça, c'est pas pour moi que je dis, mais c'est pour, parce que je pense que c'est important. Il y a un frère qui est parti de l'église, qui m'a beaucoup, beaucoup critiqué. Bon, moi, je vous avoue que ça m'est entièrement égal. Mais je le dis devant Dieu, c'est vrai. Il me dit, voilà, monsieur, quand même, je vous appelle pour vous demander pardon. Il n'y a que vous qui m'avez aidé. J'étais dans notre église, on m'a mis de côté, mais vous m'avez aidé. Alors je lui ai dit, mais ça serait bien quand même que tu demandes pardon à tous les gens que tu m'as critiqué. Et il m'a dit, mais je veux le faire. Et je crois qu'à un moment donné, quand même, il faut être droit devant Dieu. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Dieu aime cette honnêteté. Oui, à des moments, il n'y a qu'une seule prière que Dieu écoute, et il l'écoute, et il ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, tu vas me fortifier, je vais demander pardon. Le fils prodigue, il est venu, il a demandé pardon à Dieu, il a demandé pardon à son père, et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé, restauré, dans les minutes qui ont suivi. Oui, quand un chrétien commence à écouter, plutôt que de détourner son oreille, parce que c'est vite fait de lasser, de détourner son oreille, on n'écoute plus la prédication, bon, c'est toujours pareil, on commence à se dire qu'on est lassé, bon, ça sert à rien, aller à l'église, oui, d'accord. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller à l'église? Voyez, lorsqu'on commence à dire, oui, bon, mais c'est pas grave si je désobéis, tiens, justement, il a dit que Dieu ne se lassait pas de pardonner. Il y a des gens, ça les autorise à vivre dans le péché, etc. Quand on commence à être rebelle, oui, d'accord, il s'est écrit, mais c'est peut-être lui qui l'explique à sa façon. Peut-être que c'est pas ça que Dieu a voulu dire. On entend ça. C'est ça, détourner l'oreille. Quand on est tiède, ou continuellement tiède, ça peut arriver d'être tiède, ça peut arriver d'avoir des hauts et des bas. Mais quand on est continuellement tiède, laissez-moi vous dire que c'est pas comme ça qu'on va être fortifié. Il y a une autre prière inutile aussi. Écoutez bien, parce que je l'entends parfois des fois ici. Il y a des prières inutiles. C'est quand on demande à Dieu de faire des choses que nous devons faire. Ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Beaucoup de chrétiens disent « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça !» Mais si c'est Dieu qui nous demande de le faire, il ne le fera pas. Il ne le fera pas en notre place. La repentance. Seigneur, aide-moi à me repentir. Quoi que c'est encore cette prière, on peut la demander. Mais le Seigneur dit, repentez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dois me repentir. Je dois me convertir. C'est à moi de le faire. Alors, il y a un frère qui est passé par la conversion et qui un soir, là, un mardi soir après la réunion, il me dit, Monsieur Gault, priez pour que je me convertisse. J'ai dit, non. Il me regardait. Non, je ne prierai pas pour que vous vous convertissiez. Ah bon? Convertissez-vous! Et il m'a regardé, il a compris. Il dit oui, convertissez-vous. Maintenant, donnez votre cœur au Seigneur. Vous voyez, des fois, on va prier pour que les gens se convertissent. Mais non, ça ne sert à rien. Convertissez-vous. C'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit, on va prier pour qu'ils se convertissent? Non! Vous n'êtes pas converti, mais convertissez-vous. C'est vous qui devrez prendre la décision de vous repentir, de vous convertir, de faire les choses. On en a parlé l'autre fois, quand Dieu dit, mais préparez le chemin, c'est à nous de préparer le chemin. Seigneur, prépare les cœurs. D'accord, mais quand même, c'est à nous de faire les choses. On prépare une église. Est-ce qu'on peut préparer une réunion? Pourquoi on demande aux gens, on demande de prier avant les réunions? Moi, je crois qu'on peut préparer une réunion. Dans le respect, la sainteté, la piété. C'est pas la foire, l'église. C'est un endroit sérieux. Parce que des fois, on peut chanter toute sa vie, « Prends ma vie ». Je me rappelle un jour, on était en train de chanter « Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, serre-toi de moi ». Il est beau, ce petit cœur. Hein? Il est beau. Franchement, c'est un beau cœur. Mais si vous ne donnez pas votre vie, vous pouvez chanter ça jusqu'à la fin des temps, ça ne changera rien. « Seigneur, je te donne mon cœur. » Parce que la Bible dit « Donne-moi ton cœur ». Donc, Seigneur, je te donne mon cœur. Et vous n'avez plus besoin de chanter « Prends ma vie ». Quoi qu'on peut le faire, parce que ça exprime... Vous comprenez ? Moi, je le chante encore. Mais je veux dire, si vous ne la lui donnez pas, il ne la prendra pas. Hein. Est-ce que Dieu va vous forcer ? Non, jamais. Il faut comprendre que les choses doivent être claires. Il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux, mystiques. Il y a des gens mystiques. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui dirait un jour qui fait très froid ? Il faisait 3 degrés tout à l'heure. Mais imaginez, il fait moins 10. Quelqu'un qui dirait, un chrétien, qui dirait, voilà, Seigneur, tu vois, je vais sortir en t-shirt. Moi, j'ai la foi. Protège-moi, Seigneur. Qu'est-ce que vous diriez ? Oh, quelle foi, tu rends compte ? Il fait moins 10, il sort en t-shirt Marcel. Oh, quelle foi! Vous diriez qu'il a la foi? Eh non? Parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas son manteau un jour de froid, c'est un insensé. C'est écrit. Celui qui ne prend pas son manteau un jour de froid est un insensé. Voyez comment les gens peuvent être mystiques. Ah, et ça fait peut-être plein de fois. C'est ridicule. Quand il fait froid, on se couvre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de gens sont mystiques. Et ils s'imaginent qu'ils ont la foi. Ce n'est pas la foi, ça. S'ils lisaient la Bible, ils feraient attention à ce qu'ils disent. Vous voyez, être païen, être hypocrite, être mystique, être dans l'ignorance. Mais c'est vrai que Dieu entend toujours la prière quand on demande pardon. Alors il faut prier. Il faut prier pour obtenir. On ne prie pas pour prier. J'aime ce texte. On va terminer avec lui, d'ailleurs, dans Hébreux 4, verset 16. J'aime ce texte parce qu'on voit pourquoi Dieu veut que l'on prie. On ne prie pas pour prier. On prie, tiens, on prie jusqu'à 10 heures. Allez, on prie jusqu'à 10 heures. Alors on est là avec la montre, les yeux sur la montre. Ce n'est pas ça la prière. Hébreux 4, verset 16. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que chaque mot est inspiré. Et regardez ce qui est dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Comment vous avez dans votre Bible ? Afin d'obtenir. On prie pour obtenir. On ne prie pas en espérant que peut-être Dieu va nous entendre. On prie pour obtenir miséricorde. Premièrement, la miséricorde, parce qu'on a besoin de miséricorde. Après, on a besoin de grâce, parce que c'est bien d'obtenir miséricorde. Mais il faut y rester. Il faut s'y installer dans la grâce. Il y a des gens qui ont obtenu miséricorde, mais ils se sont éloignés de Dieu. Donc, ils n'ont pas trouvé grâce. Quand on obtient la miséricorde de Dieu... J'aimerais vous dire que quelqu'un d'intelligent, il a envie de s'installer dans la grâce. Et puis après, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On prie pour obtenir. Si vous priez pour prier, moi ça me fait de la peine. Hein. Oui, je prie, je ne sais pas si Dieu m'entend. Écoutez, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que la Bible dit que quand vous priez, Dieu entend. Quand vous ne priez pas non plus... Il entend tout de toute façon. Mais à plus forte raison quand vous priez. Donc, quand on prie, Seigneur, je vais obtenir. Je sais que je vais obtenir. C'est pour ça, si ça doit repasser par le pardon, eh bien ça passe par le pardon. Mais quand on est honnête, on recevra de la force et on sera debout quand Jésus va revenir nous chercher. Vous voulez être debout ? Vous voulez être debout quand Jésus va revenir ? Qui veut être debout quand Jésus va revenir ? Non mais... Vous savez, Dieu, des fois on pose des questions, moi ça fait un peu tirer par les cheveux, mais ça fait rien, c'est révélateur quand même. Parce que quand on répond, on dit, mais c'est vrai, eh bien si je veux être debout, eh bien j'aurai de la force. Pour avoir de la force, je vais prier en tout temps. Je vais prier en tout temps. Il faut prier 24 heures sur 24, il faut être à genoux. Non mais il y a des gens, ils l'ont interprété comme ça. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Il faut prier 24 heures sur 24, être à genoux. Mais non, c'est un état d'esprit. En tout temps, ça veut dire, eh bien, des fois, ça ne va pas. Il y a des jours d'épreuve, il y a des jours de bénédiction, il y a des journées fatiguées, il y a des journées en bonne santé. C'est ça, en tout temps, je prie. Je ne me laisse pas arrêter. Je suis dans les circonstances difficiles. Mais je prierai en tout temps, quoi que ce soit qu'il arrive. Je continuerai à prier. Je sens la présence de Dieu. Je ne sens pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi vous ne priez plus? Oh, je ne sens pas la présence de Dieu. Vous voyez, comment les gens sont mystiques. Est-ce qu'il faut sentir la présence de Dieu pour prier? Ben non, Dieu est là. Il faut savoir que Dieu est là. Mes frères et sœurs, à tous les cas, écoutez, il y a une prophétie. Il va venir un jour où il y aura un filet sur la terre. J'ai l'impression que le filet est en train de s'étendre. Je ne sais pas vous, j'ai l'impression que le filet est en train de s'étendre sur la terre. Mais tous les chrétiens qui veilleront, comme on l'a fait ce soir, qui le vivront et qui prieront, seront debout. Il n'y aura pas d'élite, de préféré, de chouchou dans l'Église, il n'y en a pas. Il y a des gens sérieux qui disent, si Jésus a dit qu'il faut veiller, qu'il faut prier, eh bien je vais lire, je vais prier, je le ferai de bon cœur, je ne le ferai pas avec ma tête, je le ferai avec mon cœur, et le Seigneur vous fortifiera. Gloire à Dieu, et je le glorifierai Dieu, comme Abraham. Vous voyez, il y a quelques textes dans la Bible, ça suffit. Vous voulez être fort? Vous voulez être fort? Eh bien faites ces choses. Et vous le savez, c'est obligé. Voilà, un enfant, quand il était petit, moi, on me disait toujours, mange ta soupe, tu grandiras. On ne vous l'a pas dit, ça, quand vous étiez petit? Et bien, mangez la soupe. Mangez la soupe. Parce que, bon, il n'y a pas que la soupe. Mais c'était... On le savait, on grandirait en mangeant la soupe. Eh bien, quand vous lisez, et quand vous priez, et quand vous le faites de tout votre cœur, eh bien, vous êtes fort. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on va fermer les yeux quelques instants, et on va demander au Seigneur de vivre ces choses, de les vivre avec honnêteté. Tout simplement, Seigneur Jésus, oui, tu nous as tout annoncé à l'avance. Toutes les prophéties, toutes les exhortations, pour que tous les disciples soient fortifiés. Et ce que tu faisais du temps de Paul et de Silas, tu continues à le faire dans toutes les églises où on honore ta parole. Tu fortifies l'esprit des disciples. Nous savons que ce jour vient, ce jour terrible, où toute la surface de la terre sera comme dans un filet. Mais nous te bénissons de nous avoir montré comment échapper, comment être debout, comment être fort lorsque tu reviendras. Seigneur, de la même manière que nous nourrissons nos corps pour pouvoir continuer de vivre physiquement, nous voulons continuer à fortifier nos âmes et ressembler à Abraham, qui n'a pas regardé son corps, ni sa femme, ni les circonstances, mais qui, comme nous, avait des promesses. Eh bien, s'il t'a glorifié, nous aussi, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire car tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et la gloire. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas ce qui se passe, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.